Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Ce soir, c'est dans les studios de France Bleu Auxerre que nous nous trouvons. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Non, Yvon, le canal de Bourgogne, c'est pas un haut lieu de l'œnologie. C'est un canal fluvial, et c'est de l'eau qui coule. C'est pas du pinot noir, ni du chardonnay. Oui, il y a des écluses, et des éclusiers, qui ne crachent pas dessus. Oui, le verbe écluser a un sens qui peut prêter à confusion, mais c'est de l'eau qui coule. Allez, range ton panier à bouteilles, et enfile ton gilet de sauvetage. T'as forcé un peu sur le chablis, je sens que t'as pas le pied marin. Oula, ça tangue. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le cours du canal de Bourgogne est des plus sereins. C'est le principe d'un canal, un cours d'eau artificiel creusé par l'homme pour la navigation et dont le niveau d'eau et le débit sont régulés par un système d'écluses. Le canal de Bourgogne relie le bassin de la Seine à celui du Rhône, depuis Migennes sur l'Yonne à Saint-Jean-de-l'Aune sur la Saône. Et si dans l'imaginaire collectif on se représente encore les péniches ou les chalands se bousculer au portillon, beaucoup déplorent en fait que le trafic sur le canal de Bourgogne n'ait jamais été à la hauteur de ses ambitions. D'ailleurs, les bateaux qu'il emprunte ne sont plus que de plaisance. Bonsoir Laurent Richoux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en tant que président de l'association Autour du Canal. Vous êtes aussi le co-auteur du livre blanc des canaux de Bourgogne, où il est question de leur avenir dans un contexte de baisse constante du trafic de bateaux. On en parlera. Vous avez grandi, vous, Laurent Richoux, près du canal.
Oui, alors j'ai grandi au bord du canal du Nivernais. Alors c'est un peu le...
C'est pas très loin.
C'est pas très loin, c'est un peu le frère, même époque, même histoire.
C'était où exactement?
Ah, je suis né à Irancy et donc le canal du Nivernais coule dans le village qui est au pied dans la vallée, à Vincelles. Mes premières expériences étaient à vélo et souvent pour aller à la pêche. Je le connaissais sur 3 km, hein, comme la plupart de ces riverains maintenant. J'avais pas de notion de la macro-géographie.
Avec nous en plateau pour parler de ce canal de Bourgogne, Dominique Besset, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez fait vos premiers pas sur le canal, si j'ose dire, en 1977 en tant que conducteur de travaux. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur du canal, on dit greeters je crois, vous êtes de ces greeters, ces bénévoles qui parlent du canal, qui le font connaître.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est au niveau professionnel que je suis arrivé sur le canal Bourgogne. Et le fait des greeters, enfin, ou d'ambassadeurs, c'est d'y être tombé dedans et de m'y être noyé.
Oh non, rassurez-nous.
Pas jusque-là.
Bon, c'est à
titre... Au sens figuré.
C'est à ce titre d'amoureux du canal que vous êtes avec nous ce
Exactement.
Soir. Alors, si vous le voulez bien, tous les deux, empruntons avec vous les 242 kilomètres de ce canal qui relie Migennes à Saint-Jean-de-l'Aune. D'amont en aval, le long de cet axe nord-ouest-sud-est, on traverse des paysages très changeants, pour le moins.
Effectivement, puisque ça part déjà d'une vallée dans la vallée de l'Yonne. Et en fait, la difficulté de ce canal, c'était de relier deux bassins versants, donc de passer un point haut, hein, comme un col sur une route, hein, et qu'on appelle ici un seuil, et qui se retrouve à Pouilly. Et en fait, par rapport à cette dénivelée, il y a tout un tas de territoires, enfin de paysages qui sont évolutifs. On passe au niveau des carrières, puisqu'on suit la voie d'eau. Donc si on se promène, on voit des cultures, on voit des carrières, ensuite on voit des forêts.
Et des bocages.
Des bocages.
Des grands plateaux calcaires, des champs de blé, d'orge, de colza.
Tout à fait.
On a vu beaucoup de cerisiers en fleurs aussi.
Oui, tout à fait, c'est la bonne saison. Ouais.
Ensuite, on a plutôt des vues dégagées quand on est du côté du sommet, en fait. Hein. Et puis après, on redescend, alors là, on longe une gorge, la vallée de Louge qu'on appelle, où là c'est une vallée plutôt encaissée, donc on se retrouve dans un milieu un peu plus sauvage, pour arriver vers Dijon en fait, où là c'est la grosse agglomération, avant de repartir sur la plaine du Val de Saône.
à terre aussi la route des lavoirs, qui donne une idée du mouvement hygiéniste à l'œuvre dans la région au XIXe siècle. Et puis sur l'eau, quelques ouvrages surprenants quand même de ce canal. Je pense à Pouilly en Auxois,
à voûte,
Laurent Richaud.
À la voûte, oui.
On peut la décrire.
Le canal de Bourgogne, comme le Nivernais, le canal du centre, sont des canaux à bief de partage. Alors, c'est-à-dire que c'est des canaux qui ont pour objet de franchir une ligne de partage des eaux. Donc, c'est un point haut, hein, qui est environ à 480 mètres d'altitude, au niveau de Pouilly-en-Auxois. Alors, le problème d'un canal à bief de partage, c'est son alimentation. C'est-à-dire pouvoir le remplir de suffisamment d'eau pour que les bateaux puissent naviguer dedans. Alors, donc, comme on se trouve au sommet de la montagne, pardonnez-moi ce terme pour la Bourgogne, c'est quand même plus difficile de stocker de l'eau. Donc un des moyens qui a été trouvé astucieux, c'est de faire des réservoirs artificiels. Et pour que l'eau coule naturellement de ces réservoirs dans le canal, il a fallu construire les réservoirs au-dessus du canal ou le canal en dessous du réservoir. C'est pour ça qu'on a enterré d'une vingtaine de 20-25 mètres le canal de Bourgogne pour qu'il soit sous ses réservoirs.
Une voûte qui a donné du fil à retordre au bateau. Le canal de Bourgogne, c'est 242 km, 189 écluses et encore une soixantaine d'éclusiers.
Il y aura encore un pont et ce sera sur le pont sur la gauche. Puis on vous attendra à celle d'après.
Ouais.
Hein, si vous prenez juste un petit peu d'eau.
Il y a du gasoil
Il n'y a pas de gasoil. Alors le gasoil, il faudrait le. Si vous voulez du gasoil, il faudrait aller en vélo à l'attaque qui est tout de suite ici, c'est plus court.
On va voir pour l'eau juste là.
D'accord, à tout de suite.
Alors, il faut ouvrir en aval maintenant, c'est ça, Pierre-Étienne-Guillemin ?
Oui, tout à fait. Donc, une fois que le bateau est à l'intérieur du sas, et il faut le faire descendre pour que le niveau du bief arrive des deux côtés de la même chose, qu'on puisse ouvrir les portes et que lui puisse sortir.
Alors, pour ce petit bateau de tourisme qui est pour l'instant coincé entre les deux...
Les deux portes de l'écluse,
en fait. Les deux portes
fait.
De l'écluse.
Voilà.
C'est la prochaine étape avant le port de Vénarel-et-Laume.
Oui. Oui, ils ont l'intention de s'arrêter pour faire un peu de ravitaillement en eau, peut-être en gasoil, de la nourriture. Nous, en tant qu'éclusiers, on est là pour leur indiquer s'il y a une boulangerie, un restaurant, s'ils veulent réparer leur vélo, toutes ces petites choses-là. Visiter notre beau site d'Alésia.
Voilà. Juste derrière. Un des sites d'Alésia.
Un des sites, voilà, ou le muséoparc, ou la statue de Vercingétorix. Comme bien d'autres choses qu'on a le long.
Mais vous êtes guide touristique ou éclusier ?
Alors, ça fait partie de notre métier aussi, justement, de promouvoir un petit peu notre région et ses alentours. C'est plus qu'un métier physique, c'est aussi un métier pour faire découvrir aux gens tout ce qui se passe vers chez nous. Et puis cette belle région qu'est l'Auxois et la Côte d'Or. Hein.
Un métier physique, hein, vous disiez.
Ah oui, très physique. Je vous laisse essayer, vous ne voudrez pas de ma place, vous allez garder la vôtre et rester sur la route.
Cette petite manivelle là,
cette barre de manœuvre, oui. C'est assez dur. Mais là, il va falloir attendre que ça soit des deux niveaux. C'est un phénomène de flux, en fait. Si vous avez un niveau qui est plus haut que l'autre, on ne peut pas ouvrir, en fait. C'est le principe de la poussée d'Archimède. C'est un bassin dans l'écluse. Le bassin est en train de se vider. Et pour arriver au même niveau... de l'intérieur du bassin et du bief aval, donc le bief aval, le bief qui est en bas, pour nous permettre d'ouvrir la porte et de laisser passer le bateau. Vous l'essayez ?
Là, tout de suite ?
Ouais, mettez-vous plutôt de l'autre sens et poussez. Je vais vous entendre souffler.
Vous allez voir ce que vous allez voir. Pas mal.
Et voilà, c'est parti. Donc le, toujours très important, c'est notre sourire, un petit coucou aux plaisanciers.
Vous êtes un éclusier sympathique.
Je fais partie de tous ces éclusiers du Canac qui sont sympathiques. Et je crois qu'on est tous sympathiques.
Petit, regarde, un bateau passe, passe les rêves et l'évasion. Il glisse, le fleuve l'enlace, il s'éloigne, n'est plus qu'un sillon. Que déjà le courant efface, tu voudrais bien l'accompagner. Tu me prends la main, mais il passe, je reste, je suis l'éclusier.
On imagine l'éclusier passer la journée devant son écluse comme le chef de gare. Eh bien non, Pierre-Étienne doit suivre à mobilette le bateau dont il vient de permettre le passage. On le retrouvera tout à l'heure devant l'écluse 55. Laurent Richoux, Dominique Besset, on peut encore s'émerveiller d'une technologie qui a déjà quelques siècles. Ces écluses qui permettent de ne plus se préoccuper des caprices des fleuves ni des seuils à franchir, Dominique Besset.
Ah oui, tout à fait, c'est un ouvrage... Un gros ouvrage avec plein d'ouvrages remarquables que ces écluses, où c'est à la fois de la mécanique, on va dire, grossière, agricole, mais avec une précision et un principe, comme le disait Pierre-Étienne, beaucoup de principes, de vase communicant, sans énergie artificielle.
Quand ils ne sont pas automatisés, en effet. Alors à l'origine de ces écluses, il y a un dessin de Léonard de Vinci consigné dans ce codex Atlanticus que la Pinacothèque à Paris a exposé récemment. Le canal devient ainsi double assagi de la rivière Aigelus quelque part et qui permet de passer partout. Laurent Richoux, tout ce réseau de canaux imaginé, alors dès Henri IV, je crois, mais construit dès le XVIIIe siècle, les années 1770, avait un but, relier l'Atlantique à la Méditerranée.
On est au début de la révolution industrielle. Le transport par eau est le seul moyen efficace de transporter des marchandises. Un homme transporte 25 tonnes sur un cours d'eau. Alors donc, effectivement, le transport par eau était très, très, très... Enfin, c'était le seul transport existant, quoi. Et puis, donc, il y avait des flottes qui se sont développées. Donc, par exemple, ici, la... Lyon était navigable jusqu'à Auxerre. Et le trafic s'arrêtait à Auxerre. Auxerre a été le troisième port fluvial de France parce que les bateaux s'arrêtaient là. Alors il y avait toute une activité de chargement, déchargement de bateaux. Et puis de maintenance et ainsi de suite, autour de tous les métiers autour d'un port. En 1842, quand le canal du Nivernais a été ouvert, les bateaux passaient tout droit. Donc l'activité a baissé. Alors donc, le but de ces canaux à pièces de partage, c'est d'enlever ces points de blocage qui étaient Auxerre, par exemple, où la rivière cessait d'être navigable. Alors ça c'était pas sans problème parce que il a fallu uniformiser les flottes. Dans chaque bassin, on avait créé des bateaux en fonction des matériaux qu'on trouvait sur place et puis en fonction de la forme de la rivière et des choses qu'on avait à transporter. C'est la marine de Loire n'avait rien à voir avec les marines du Nord ou du Rhône, par exemple, ou de la Saône.
Mais ne serait-ce que sur ces 242 km de canal de Bourgogne, Dominique Besset, comment ça s'est passé la construction? Parce qu'aujourd'hui, pour ce genre de grands travaux, on consulterait la population, ou du moins on ferait semblant. Il y aurait des débats, une commission d'enquête publique.
Ça n'a pas été simple non plus. Ça s'est passé sur beaucoup de temps, avec beaucoup de phases. Avec une particularité, une difficulté pour le canal de Bourgogne, ça a été de choisir le
tracé,
quoi. Et il a fallu se décider. Donc ça a été assez laborieux. Il y a eu beaucoup d'échanges. Mais c'est impressionnant, même pour construire une écluse, en fait, avec des plans inclinés, à l'égyptienne, en fait, si on peut dire. Et tout avec des animaux, quoi, qui tiraient des remorques de terre. Il fallait amener l'argile. Alors, dans le choix, il y a eu on pensait tout à l'heure aussi, en traversant les territoires, il y a des territoires d'argile pour l'étanchéité du canal. Donc il fallait étancher le canal, ramener des courroies de l'argile, tapisser au fond, tout ça, piétiner, et tout ça avec une parfaite altimétrie pour que tout le système hydraulique puisse fonctionner, quoi.
Et on en profite à l'époque pour embellir le paysage, soigner les berges et fignoler les maisons d'éclusiers. We'll be right back.
des milliers de souvenirs. Vous voyez, c'est toute une histoire. Ah, c'est tous des milliers de souvenirs qu'il y a. C'est tous des cadeaux. Vous voyez, les avions, c'est une personne qui est décédée qui m'en avait fait cadeau.
Les petits avions qui
tous pendent. Tous les avions, parce qu'on est à côté d'une base aérienne qui va fermer dans quelques mois. Mais non, c'est la plus vieille base de France qui est à côté. Alors là, c'est pour ça qu'il y a tant d'avions, parce qu'on vivait à côté des avions ici.
Alors, il faut expliquer à l'Inde de Nuit qu'on est dans une cave, en fait. On est sur...
C'est une cave. C'est une cave d'éclusiers, parce que vous savez que les éclusiers, pratiquement, étaient indépendants. Il y a des écluses où il y avait des fours à pain. Là, il y avait des écuries aussi pour des bêtes. Vous aviez des éclusiers, avant la guerre de 40, ils avaient des vaches ou des moutons. Il y avait des caves aussi pour mettre les produits qui produisaient. Parce que vous savez, les éclusiers troquaient beaucoup avec les bateaux. Alors, ils leur donnaient un lapin, ils leur donnaient une poule ou des œufs, et le bateau leur donnait du grain.
Est-ce que parfois le cadeau en question, c'était une bouteille de vin?
Oui, beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup de bouteilles de vin qui ont été laissées par les bateaux. Des tas de souvenirs, c'est des bouteilles, c'est des documents aussi.
Alors décrivons votre joyeux bric-à-brac. Donc on est dans une cave en terre battue, avec, comment dire, un amoncellement, non parce qu'en fait c'est bien rangé, mais d'objets, de souvenirs, de billets de banque, de photos, de maquettes de bateaux, de bouteilles de vin, vides ou pleines, des drapeaux.
C'est des souvenirs de la guerre. Oui, c'est des souvenirs de la guerre, c'est des souvenirs, tout un peu, ça se retrace toute l'histoire un peu. L'histoire. Ce musée un peu, c'est mon histoire à moi. Mon vécu canal, de la maison éclusière et des gens qui ont venu ici. C'est tout ça le musée.
Alain de Nuit, quand est-ce que vous vous êtes installé dans cette écluse numéro 62 du canal de Bourgogne, donc versant Saône, on est au sud de Dijon.
Alors moi je me suis installé dans cette écluse-là dans les années 83, en juillet 83 exactement. Mon ex-femme tenait l'écluse, moi j'étais agent d'entretien.
C'est pas vous qui fait ouvrier et fermier
au départ, l'écluse. Non. Au départ, non. Et j'ai repris l'écluse dans les années 92.
Il y en avait beaucoup des femmes éclusières à l'époque?
Au départ, pratiquement, c'était que des femmes. Ça arrivait après la guerre de 14. C'était une compensation de guerre. On embauchait les femmes et puis les hommes faisaient souvent le cotonnier, faisaient souvent des choses comme ça. Parce que vous savez que les éclusières, c'était des annies. Ils n'étaient pas titulaires de la fonction publique. Ils étaient simplement des auxiliaires. Et ils étaient moins payés que les agents d'exploitation. Ils étaient logés gratuitement. Et c'était le métier d'une éclusière. Elles pouvaient élever leurs enfants, faire leurs popotes, faire leur petit jardin, s'occuper, avoir des bêtes, faire des lapins, faire des poules, avoir des œufs. C'était le métier de ce monde-là. Voilà. Et puis ils vivaient tout le temps. Vous savez, moi j'ai connu des éclusières qui n'avaient pas de vacances. Ils travaillaient 7 jours sur 7 pour un salaire de misère. Et c'est pas si vieux que ça, il y a 30 ans. Et dans les années 90, ils ont supprimé ça. Et l'éclusier, maintenant, il prend un scooter, il va faire 10-15 écluses. C'est plus en poste fixe, même comme j'ai connu, moi j'étais en poste fixe ici. Un éclusier, vous remontez il y a 25 ans en arrière, il était dans son écluse, il éclusait ses bateaux. Et c'est pratiquement ce qu'il faisait. Il entretenait un petit peu son tour d'écluse, c'est ce qu'il fait. La modification par rapport au manque de bateaux, on a supprimé déjà du personnel, on nous a donné, dans ce temps-là c'était une mobilette, maintenant c'est des scooters, et on nous faisait déjà faire plusieurs écluses. Et maintenant c'est encore pire, c'est qu'on en fait de plus en plus. Moi j'arrive à peu près, je calculais, c'est plus de 3000 km sur un scooter.
Vous-même, quand vous êtes installé ici, vous aviez des enfants? Vous avez vécu dans cette petite maison d'éclusier, oui, avec des enfants?
J'ai élevé 5 enfants. Moi, tout seul. Je ne vais pas me plaindre. Moi, j'ai encore une maison qui a eu des pièces qui ont été refaites. Il y a eu des tas de choses comme ça. C'est des maisons qui étaient faites, il faut le savoir, en 1840. Elles ne sont pas adaptées au temps moderne. Vous avez même des écluses. On s'aperçoit que même pour entrer dans la pièce, vous ne pouvez pas passer une machine à laver, rien du tout. Tellement les portes sont rétrécées.
Et les enfants donnaient un coup de main alors à la vie de l'écluse, au fonctionnement?
Oui, les enfants étaient beaucoup sur les écluses, c'était un peu leur vie. Ils sont nés sur un... Moi j'ai des enfants, il y en a un qui est éclusier même maintenant. Mais c'est leur vie, ils sont nés sur ces canaux. Moi, bon, ma belle-mère était éclusière, mon beau-père était cotonnier. Bon, c'est pour ça que je suis rentré dans ce métier aussi, comme ça. Voilà. C'est de, beaucoup familial. Et vous aviez les cotonniers, maintenant, ce qu'on appelle agents d'exploitation. Eux, ils faisaient l'entretien du canal. Le fauchage, vous avez, bon, ben, le nettoyage, tout ce qu'il y a à faire, le graissage, voilà, tout. Et puis les gros entretiens de travaux, que je vais vous montrer des photos aussi, qu'on faisait sur le canal.
Vous, Alain Denis, vous avez connu la période du transport de marchandises sur le canal. Voilà. Qu'est-ce qu'on transportait comme marchandises?
Moi, j'ai connu beaucoup le sable. On avait les sabliers qui chargeaient en Saône, avec les dragues. Ils remontaient le sable sur Dijon, qui déchargeaient à l'envi à Dijon. Environ 3-4 bateaux jour qui passaient chargés de sable. Puis la redescente aussi. Et autrement, on avait le grain, qu'on a eu beaucoup, le blé, l'orge, tout ça qui emmenait. Et on a eu aussi la moutarde, il y a quelques années, qui déchargeait à 2 km d'ici. Mais étant donné que maintenant on produit la moutarde ici, tout ça disparaît. Elle venait du Canada.
Avant, à Dijon, on mangeait de la moutarde du Canada.
Ben, c'était comme ça. On a encore de la moutarde qui vient du Canada.
Et quand ça s'est arrêté, est-ce que vous avez vraiment vu une différence, vous, dans votre quotidien, vos journées de travail?
Oui, parce que le problème, c'est qu'on a perdu des bateaux. Et même, on a perdu beaucoup de bateaux de plaisance. Hein, depuis, moi, j'ai côtoyé qu'on passait en pleine saison, on arrivait ici à 20-30 bateaux jour. Maintenant, ici à Stécluse, on passe 680 bateaux à l'année. On a perdu beaucoup, beaucoup de bateaux de plaisance ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les bateaux reviennent. C'est autrement, un jour ou l'autre, comme tout endroit, comme vous voyez, on ferme des bases aériennes. Un jour, on peut fermer des canaux, il faut le savoir.
Votre métier, le métier d'éclusier, est voué à disparaître, vous pensez, à terme?
Non, à modifier, à changer. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, on a encore une chance sur ce canal, c'est qu'il n'est pas automatisé. Il est pratiquement trois quarts en manuel. Mais tout ça, c'est un coût. Il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est les bateaux qui prouvent que ça fait vivre le local, ça fait vivre tout. S'il n'y en a plus, l'utilité d'un canal, après on peut se poser des questions. Moi, dans un an, je suis à peu près en retraite, mais j'espère que ça sera toujours un beau métier. Il évolue, c'est beaucoup plus difficile, mais en fin de compte, c'est un métier, on arrive quand même à faire son monde. Voilà. Moi, j'ai fait 34 ans que je suis dans ce monde-là. Je l'apprécie et je l'adore.
Sur la route du canal de Bourgogne, nous sommes dans les studios de France Bleu Auxerre avec nos deux invités, Laurent Richoux, président de l'association Autour du Canal, et Dominique Bessel, l'un de ses ambassadeurs bénévoles amoureux du canal de Bourgogne. Vous avez entendu Alain Denis dire au sujet de son métier d'éclusier « on fait notre monde ». C'est l'idée qu'on en a, Laurent Richoux, un métier où chacun peut cultiver son jardin, fût-il secret.
Oui, alors il faut savoir que les écluses sont souvent... au milieu de nulle part, au milieu de la campagne, les écluses en fait sont là pour compenser le relief, la dénivellation. Alors donc elles ont été construites où on avait besoin de les construire. Alors il y a beaucoup de maisons qui sont isolées. Et alors c'est vrai que on y vit en autarcie. Toutes les maisons ont un puits, ont un voir, un potager. Il y avait des arbres fruitiers, les arbres qui étaient censés protéger le canal du vent. Donc vous avez des peupliers principalement. Et puis quand vous vous approchez des écluses, vous avez des arbres fruitiers. Donc la maison était conçue pour vivre en autarcie.
D'ailleurs, il y a une époque où les canalous, comme on les appelait, faisaient peur aux enfants.
Il y a toujours eu un... Le canal, c'est un monde à part. Et il y a toujours eu des tensions. Alors, à la fois du troc et des relations, mais aussi des tensions. C'est comme entre les nomades et les sédentaires. C'est une histoire de culture. Alors, on a besoin l'un de l'autre, mais on n'a pas la même culture, le même fonctionnement. Ça crée des tensions.
D'ailleurs, on peut même dire que leur famille, c'était presque avec les mariniers, et ils avaient des nouvelles plus souvent de gens en Hollande que des gens du village du coin.
Ils avaient les, parce que finalement, ils se connaissaient pas avec les gens d'Atterre,
tout à fait.
Comme on disait. Vous, en tant que constructeur de travaux, Dominique Besset, depuis 1977 sur le canal, est-ce que vous aviez des relations avec eux, avec les éclusiers?
Tout à fait. Ben oui, puisque je m'en occupais en fait. Hein. J'étais dans l'encadrement avec, et j'avais un groupe d'éclusières, comme disait Alain. C'était vraiment que des éclusières au début à Eni, qui faisaient même les 13 heures par jour, hein. Et effectivement 6 jours sur 7. Et oui, c'était notre lien en fait. Les gens étaient isolés, comme disait Laurent, et en fait, on était leur lien pour leur apporter un peu les nouvelles du service et le fonctionnement. On va dire, sinon, ils étaient vraiment complètement avec les mariniers. Ils avaient le contact avec les enfants, avec la vie du village. C'est les enfants qui le faisaient avec l'école.
Alors, Alain Denus raconte comment son travail a changé à partir du moment où les bateaux de marchandises n'ont plus circulé sur le canal. Vous, depuis quand vous ne voyez plus passer les bateaux de marchandises? Ça date de quand?
Ben, ça a été assez rapide, effectivement. Je me souviens, dans les années 80, il en passait, qui traversait bien le canal, on cassait la glace à toute saison.
Vous cassiez la glace?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire?
Oui. Ben, c'est-à-dire que le canal étant sans courant, on va dire, comme dans une rivière, la glace prenait.
En hiver.
Voilà, les hivers, petit à petit, s'épaississaient. Et puis, en fait, vous pouvez bloquer la navigation. Donc, on devait, il y avait toute une procédure, hein, pour la casser. On la cassait pas n'importe comment et n'importe quand surtout. Et donc, c'était bien pour des bateaux de fret. Et en fait, parce que on peut dire qu'au début, c'était, le canal de Bourgogne faisait partie du HPLM. C'est Le Havre, Paris, Lyon, Marseille. Il était sur cette ligne-là. Je peux faire une allusion avec le train qui est le PLM, Paris-Lyon-Marseille.
Oui, finalement, il n'a pas eu de chance. Le canal, il a été mis en service en 1833 et en 1851, le chemin de fer arrive et lui pique la vedette, en fait.
Il lui pique le H et il devient PLM.
Oui, il lui pique le H du Havre. Ouais.
Voilà. Donc, on va dire que dans les années 80-85, là, il y a eu une difficulté où, en fait, je pense que c'est que le monde économique, où on voulait du flux tendu pour approvisionner l'industrie. Et en fait, il faut savoir que les bateaux, c'est des artisans. En fait, le canal, c'est une infrastructure qui a été pilotée, voilà, par les services de navigation, on va dire par l'État, et elle a été mise à disposition d'artisans qui avaient une flotte, qui avaient leur bateau en général, et qui choisissaient leur voyage par rapport à des trajets, à des fournitures. Enfin, des transports qu'ils prenaient ou qu'ils prenaient pas, il y avait un tour de rôle d'organiser. Et en fait, les entreprises, elles, voulaient avoir des contrats avec une assurance d'approvisionnement. Ce qui était difficile à faire par des artisans qui choisissaient leur voyage, ben, suivant les conditions météo, suivant les conditions de famille, quand ils avaient des baptêmes, ils se retrouvaient à certains endroits, un peu comme les nomades, enfin, ils disaient, voilà, il y a tout un rituel. Ils ont toute une vie qui n'était pas adaptée vraiment avec un engagement sur des contrats. Et c'est là qu'il y a eu vraiment une incompatibilité, on va dire, avec l'industrie à ce niveau-là.
Mais d'ailleurs, même physiquement, Laurent Richoux, quand on l'observe, ce canal de Bourgogne, on a l'impression qu'il n'a pas été conçu pour ça, en tout cas pour les gros bateaux de fret.
Il était conçu au format de l'époque.
Donc des petites berges.
Il était conçu dans un premier temps au gabarit béquet. 30 mètres de long. Et puis après, il a été modernisé en 1870-1880, peut-être même 1890, au gabarit fraissiné. Donc là, c'est 38,50 mètres, donc on va dire 40 mètres pour faire court. Alors c'était le ministre Fraissiné qui a voulu rendre efficace et uniformisé au niveau national le transport. Il a fait ça pour le rail, mais pour les canaux, mais aussi pour le rail. Donc c'était une volonté de moderniser. Alors, avec les standards de l'époque. Depuis, on transporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On vous dit que quand vous achetez un t-shirt, il a fait 10 fois le tour du monde avant que vous le portiez. C'est un peu ça le problème. Avant, on avait une industrie beaucoup plus localisée. Donc beaucoup moins de transport que maintenant.
Et d'ailleurs, comment le canal a contribué au développement de la région, les usines qui sont installées en bord de canal, les métiers qui lui étaient liés?
Oui, mais c'est en fait, effectivement, le canal a drainé quelques installations le long, justement pour se servir de ce moyen qui, à l'époque de la construction, quand le choix a été fait, était le transport évident, par voie d'eau Et en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, à la fin de la construction, il y a eu la voie ferrée qui, elle, au contraire, a pu faire des contrats, a pu faire des investissements de raccrochement à des entreprises, a pu aller vers les entreprises plus que le canal ne bougeait. Donc même les entreprises qui étaient installées le long du canal, c'est elles qui l'ont fait vivre. Hein. Donc il y a des carrières, il y a une cimenterie qui a transporté beaucoup de charbon pour son fonctionnement. Donc il y a eu des infrastructures comme ça, enfin des entreprises qui se sont installées le long et qui ont fait vivre le canal, mais avec difficulté parce que voilà, un peu ces contraintes modernes qui arrivaient de flux tendus, on peut dire un peu, et le fonctionnement artisanal d'une entreprise de plusieurs entreprises de transport.
Et voilà comment, au fur et à mesure, de fil en aiguille, le canal de Bourgogne n'a été plus dévolu qu'à la plaisance, qu'au transport de tourisme.
Le bateau passe, je reste, je suis l'éclusier.
Bienvenue à la maison.
Maison éclusière 55, Yonne.
Yonne, voilà, pour le versant Yonne.
Parce que le canal de Bourgogne a deux versants.
Il y a deux versants.
Un versant Yonne et un versant Saône.
Qui sont délimités par un bief de partage qui se situe à Pouilly-en-Auxois.
C'est pas loin d'ici, Pouilly-en-Auxois?
Non, à quelques kilomètres, oui. Enfin, on y arrive en une heure en voiture, mais il faut compter deux jours en bateau. Le bateau, c'est aussi faire preuve de patience, pouvoir observer. Ça change beaucoup de nos vies trépidantes, je dirais, où on est obligé de courir tout le temps pour notre travail, pour notre vie active, pour toutes ces choses-là.
Mais votre vie à vous, Pierre-Étienne Guillemin, n'est pas non plus un long canal tranquille, parce qu'on vous voit courir derrière ce bateau. Est-ce que vous avez une petite mobilette?
Oui, tout à fait. Là, avec mes collègues, aujourd'hui, on va faire 36 écluses. Donc ça fait des belles journées, voilà. Mais nous, on a cette chance d'accueillir des gens qu'on appelle les plaisanciers. Donc qui dit la plaisance, dit le bien-être, savoir vivre, savoir prendre son temps. Or même nous, si on court un petit peu entre chaque écluse, c'est jamais très long, c'est un kilomètre, c'est deux kilomètres, et tout de suite on a un moment agréable par le fait d'être avec ces plaisanciers qui sont ou français ou étrangers, puisqu'on a beaucoup plus, je pense, de trafic de gens qui viennent d'autres pays, sur des petits bateaux privés comme on voit aujourd'hui, donc des Belges, des Hollandais, des Allemands surtout, des Suisses, et sinon on voit des Américains, qu'est-ce que j'ai déjà passé, des gens du Costa Rica, d'Amérique du Sud, on voit le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie.
Mais vous n'avez pas dit les Anglais?
Il y a des Anglais, mais on n'aime pas les Anglais, vous savez. Non, si, on aime beaucoup les Anglais. Il y a aussi des Anglais, ouais. Voilà, qui servent du canal de Bourgogne comme d'une route pour traverser. Ils ne s'arrêtent pas forcément pour visiter.
Et alors, quand ces bateaux passent, qui sont parfois des péniches hôtels, des bateaux plus luxueux, ce sont deux mondes qui se croisent quand vous les regardez passer?
Il y a eu des grosses différences d'argent. Parce que c'est vrai que un voyage en bateau coûte assez cher, pour à la limite très peu de kilomètres. Et on est tous à avoir envie d'être sur la roue, de partir. On a eu 6 heures de trajet, que sur un bateau, non, c'est pas ça, c'est un nombre d'écluses. Ah, je vais faire 2 kilomètres en combien de temps? Oh, une demi-heure, bon, mais c'est exceptionnel.
Vous en voyez passer combien par jour des bateaux comme celui-ci?
Alors, c'est très fluctuant. La saison vient de commencer, donc on voit très peu de bateaux. Je dirais c'est 1 à 2 bateaux par jour. Mais on peut passer jusqu'à une quinzaine de bateaux dans notre journée.
Vous nous avez dit bienvenue à la maison quand on est entré dans cette petite maison éclusière, la numéro 55. Mais ce n'est pas vraiment chez vous, en fait.
Non, ce n'est pas ma maison d'habitation. En fait, c'est un point où on se retrouve avec nos collègues, où on peut récupérer notre matériel, nos véhicules de service, où on dépose des messages pour nos chefs d'équipe. On a des fiches d'anomalies qu'on remplit quand on voit des anomalies sur le canal, que ce soit au niveau des ouvrages, des écluses ou au niveau des biefs, si on s'aperçoit qu'il y a des trous, des branches, des problèmes aussi qu'on peut avoir avec les plaisanciers ou les usagers du canal, parce qu'on a cette chance aussi que le canal de Bourgogne est longé par la véloroute, ancien chemin de halage.
Et c'est à ça que nous sert cette petite maison, c'est justement rendre compte de tout ce qu'on rencontre chaque jour, toutes nos péripéties et nos journées tranquilles aussi.
Vos péripéties avec des marins d'eau douce, ça arrive de vous retrouver avec des plaisanciers qui ne savent pas amarrer leur bateau, alors avec qui vous avez du fil à retordre?
Beaucoup de gens qui louent les bateaux, en fait. Et les gens ont une petite initiation, mais la plus grosse initiation, c'est nous qui leur faisons sur 2, 3, 4 écluses, leur faire comprendre comment s'amarrer, comment s'arrêter, faire un petit peu des nœuds, pas de nœuds. On le fait volontiers, mais c'est aussi indiquer aux gens où sont les boulangeries, où ils peuvent s'amarrer la nuit, qu'est-ce qu'il y a de beau à visiter ou pas, que me conseillez-vous? C'est ça aussi, les éclusiers. Je pense que c'est primordial dans notre métier d'éclusier de faire bien plus que de passer des bateaux, justement.
Ça fait combien de temps que vous êtes éclusier, vous?
Alors moi, ça va faire 12 ans.
Comment vous l'êtes devenu? Il faut passer un concours.
Donc c'est un concours d'État qui est affiché au journal officiel et on est pris ou pas pris. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé sixième de mon concours, donc c'était pas trop mal. Et j'ai réussi à choisir cet endroit, c'était mon premier choix, moi. Voilà, donc ça fait 12 ans que... Mais on a la chance aussi d'avoir un métier qui change. Parce que moi, quand je suis rentré il y a 12 ans, on ne travaillait pas de la même manière qu'on travaille aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de parler autant.
Il change comment?
Ben, il change. Moi, quand j'ai commencé, je faisais pas autant d'accompagnement des bateaux. On avait le trafic était différent. Je pense qu'on avait un tout petit peu plus de bateaux et beaucoup plus de personnel. Mon secteur d'activité a grandi, mais ça me permet de connaître encore plus le linéaire du canal de Bourgogne et mieux renseigner les gens plutôt qu'avant. Je disais, ah ben non, je sais pas ce qui se passe à 5 km d'ici. C'est pas mon secteur. Et moi, je trouve que c'est très intéressant et pour moi d'en savoir plus et surtout ce que je peux apporter à tous ces usagers du canal de Bourgogne.
Et ça change quoi de vivre au bord de l'eau?
Je pense qu'on est heureux. On a froid souvent, il fait très froid. C'est quand même assez humide, c'est une vie qui est spéciale. Mais quand on voit le cadre, le soleil qui se lève sur le canal de Bourgogne, toutes ces couleurs-là, ces reflets. Moi, j'ai des canards à côté de chez moi, les oiseaux sont à ma fenêtre. C'est pas donné à tout le monde de voir ça.
Vous mesurez tous les urbains qui vous jalousent?
Non, pas du tout, c'est impossible. On a quitté depuis trop longtemps la ville.
J'ai oublié de vous poser une question. Est-ce qu'il arrive que vous ayez à vider le canal, qu'il se vide pour nettoyage, une fois de temps en temps?
Alors, moi, je n'ai pas connu, je suis trop jeune, mais on les vidait décennalement. Et on profitait de vider les biefs et on réparait l'écluse du bas jusqu'au plafond, je dirais. Et aujourd'hui, en fait, avec les poissons, on n'a plus le droit de vider le canal.
Je voulais savoir si vous aviez déjà trouvé des choses incroyables dans le canal une fois qu'il était vidé.
Des caddies.
De supermarché.
De supermarché, des vélos. Les enfants cassent la glace l'hiver. Le canal gèle, il y a de la glace. Donc dès qu'il y a un morceau de ferraille, des choses comme ça, on retrouve beaucoup de ferraille au fond du canal. Quelques animaux, des fois, malheureusement.
Pas de cadavres?
Personnellement, non. Mais autour des grandes villes, un petit peu plus. Je sais que ma collègue là, qui est de Dijon pourra dire qu'aux alentours de Dijon, ils retrouvent quelques suicidés, 2-3 par an, je pense, à peu près.
C'est dans la chanson de Brel que l'éclusier finit par mettre fin à ses jours.
Mais je suis trop jeune pour avoir connu Brel.
J'ai cru que vous alliez dire je suis trop jeune pour mettre fin à mes jours.
Ah ben non, j'y pense même pas. C'est pas d'actualité, ça n'y sera jamais.
Vous êtes un éclusier joyeux.
Je l'espère, oui. Oui. On a nos doutes et nos peines, comme tout un chacun. On est homme et éclusier en même temps.
Dans mon métier, même en été, faut voyager, les yeux fermés. Ce n'est pas rien d'être éclusier.
S'adapter ou mourir, c'est ça l'alternative des éclusiers du canal de Bourgogne, Laurent Richoux ?
Ah oui, c'est vrai que ça fait bientôt 200 ans qu'il a été creusé, percé. Alors on a connu plusieurs époques. Le canal a été construit pour le fret, hein, puis après, jusque dans les années 50... 50-60. Puis après, c'est les Anglais qui sont venus nous montrer comment faire de la plaisance. Donc les Anglais, c'est grâce à eux que le canal de Bourgogne a été sauvé. Vous connaissez l'histoire, non ?
Non.
Quand on a relié Dijon à l'autoroute A6, par une bretelle qui s'appelle maintenant l'A38, donc ça fait une quarantaine de kilomètres, un des tracés envisagés pour rentrer dans Dijon, c'était de boucher le canal. Et donc c'était assez simple, plutôt que de casser la montagne pour faire de la place, dans cette vallée qui est étroite. Les ingénieurs, pensaient boucher le canal sur quelques kilomètres, le remblayer et puis poser l'autoroute dessus.
Alors finalement, le canal a été sauvé. Alors, on s'est dit, on va continuer à attirer les bateaux de tourisme. On a tout misé sur la plaisance.
C'est pas ça. Donc à l'époque, les seules personnes qui utilisaient le canal, c'était un Anglais avec des pénichotels. Alors j'en profite pour vous dire que cette année, en 2016, on va fêter les 50 ans des pénichotels. Le terme pénichotel a été inventé par des Anglais en Bourgogne. Le bateau, c'était le Palinirus. Et donc, c'est un bateau de commerce qui avait été transformé à l'époque en hébergement flottant. Alors, c'était pas du tout luxueux comme ça l'est maintenant. Mais c'est né en Bourgogne. C'est une invention anglo-bourguignonne, je dirais. Et c'est grâce à ça, il y a eu à l'époque un article dans un magazine qui s'appelle l'Autojournal, où on voyait ce bateau, le Palinirus, qui était là. Alors, si on avait bouché le canal, même que sur 3 kilomètres, on aurait carrément tué le canal. On aurait fait deux cul-de-sac et ça aurait été la mort du canal. C'est pour ça que ces canaux en Bourgogne, on a encore cette richesse-là grâce aux Anglais. Alors donc, jusque dans les années 90, la plaisance s'est développée. Maintenant, on est plutôt dans une phase de stagnation.
Stagnation, parce qu'on est quand même en Bourgogne, qui est une région qui attire beaucoup de touristes, pense-t-on. Et puis, on parle toujours de démocratisation de la plaisance.
Ouais, c'est pas vrai.
Ah bon ?
Non. C'est pas vrai, les bateaux sont obligés de plus en plus luxueux pour des raisons de normes et de choses comme ça. Les bateaux n'ont plus le droit de rejeter, et tout le monde va comprendre, d'avoir des moteurs propres, de ne pas rejeter les eaux grises et les eaux noires dans l'eau. Donc, ça veut dire des installations sur les bateaux, des installations sur les berges. Tout ça, ça coûte cher. Donc, ça va pas dans le sens de la démocratisation.
Ouais. En 1884, l'écrivain suédois August Strindberg proposait à son ami le peintre Carl Larsson « Et si nous avions le culot de faire ensemble un voyage en péniche pour montrer aux Français à quoi ressemble leur pays ?» Et puis, il y a aussi Stevenson qui a fait des voyages sur les canaux du nord de la France. Est-ce que les Français, eux, connaissent leurs canaux ?
Non, je suis d'accord avec ces deux citations. Les gens qui habitent au bord du canal connaissent 2-3 kilomètres de chaque côté de chez eux, en amont, en aval. Mais ils savent pas d'où ça vient, à quoi ça sert, où ça va, dans quel sens ça coule, ainsi de suite. Les Anglais qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80, venaient avec des équipages anglais et des clients anglais ou américains. Et donc tout ça, ça parlait anglais. Et ça crée, tout à l'heure on parlait de la distance entre les gens d'Atterre et les canalous. Après on avait la distance avec la langue, entre les gens d'Atterre qui parlaient que français et puis les gens des bateaux qui parlaient que anglais. C'était encore une scission supplémentaire. Alors, ils avaient quand même besoin, pour l'agrément des voyages de ces Américains, c'était l'authenticité, c'était les caves, c'était... les charcutiers, c'était tout ce savoir-vivre français et bourguignon.
Et rajouter à cette époque, il y avait même une incompréhension entre les éclusiers et les plaisanciers, puisqu'au début, les éclusiers étaient habitués à travailler avec des gens qui travaillaient, des mariniers, et ont découvert ces plaisanciers, et il y a eu
le monde des loisirs, en fait.
Une phase délicate à passer, c'est une évolution importante au niveau du métier d'éclusier, comme on parlait un petit peu.
Les Anglais se sont transformés en ambassadeurs de nos canaux auprès de leurs riverains, parce que c'est eux qui racontaient ce qu'il y avait de l'autre côté de la colline. Et quelques riverains, je vous dis le charcutier, le vigneron, ils ont embarqué quelques heures avec ces mariniers parce qu'ils les trouvaient sympas, on buvait bien ensemble. Et puis c'est eux qui leur ont montré l'intérêt de ces choses-là. C'est donc, les Français, on ne connaît pas beaucoup les canaux. C'est un grand drame pour nous, pour les défendre, les gens ne les connaissent pas.
On pourrait les connaître à vélo, il y a quand même des chemins de halage qui sont faits pour ça. Dominique Besset ?
Oui, je pensais même, dans les précurseurs, en fait, avant le tourisme, on a eu, par rapport aux franco-français, on va dire, c'était les transits de voiliers. Parce qu'en fait, on a un canal qui était assez en mouillage, assez profond, pour laisser passer les voiliers. Et en fait, c'était pour transiter, en fait, c'était les gens qui convoyaient des bateaux pour les amener en Méditerranée. Mais c'était utilitaire, c'était pas du tourisme.
Laurent Richoux, dans votre livre blanc des canaux de Bourgogne, vous répertoriez toutes les contraintes auxquelles est soumis le canal de Bourgogne et qui rendent son avenir incertain, contraintes de sécurité croissante, pression écologique pour que soient détruits certains barrages. Ah bon, donc c'est peut-être les écolos qui seraient à l'origine d'une menace qui pèserait sur le canal de Bourgogne ?
Ah non, mais il y a un contexte général. Le canal construit il y a 200 ans n'est plus du tout adapté, n'a plus de pertinence économique. Alors, on transporte de temps en temps des pales blanches, du sable, des choses comme ça, mais ça reste anecdotique. On va pas lui trouver une justification économique de ce côté-là. Alain Denuy disait que les maisons n'étaient pas adaptées au confort de l'époque. La largeur des portes, la place du lave-linge, ainsi de suite, enfin des bricoles, mais enfin, c'est plus général que ça. L'accès en voiture, plein de choses. Après, effectivement, il y a des menaces qui sont, je sais pas conjoncturelles, mais on va parler du réchauffement climatique, par exemple. Le canal a besoin d'eau à son sommet pour fonctionner. Le canal de Bourgogne n'est pas super bien alimenté. Il a connu dans les années de sécheresse, 96-2003, et d'autres années, des interruptions précoces. Oui, des déficits d'eau. Et on a fermé le canal parce qu'il n'y avait plus d'eau. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. La modification des plantes, modification du régime de précipitation durant l'année fait que cette année, on a fermé le canal le 18 août. Je vous écoute.
Vous parlez aussi de la disparition progressive, voire programmée, des services publics et privés en zone rurale, la fermeture des hôtels, comme si le tourisme était en train de se rétracter dans toute la Bourgogne et que forcément ça aura une incidence sur le trafic touristique sur le canal de Bourgogne. Alors Laurent Richoux, on arrive à la fin de cette émission. Comment on sauve le canal, en tout cas à long terme? Comment on lui garantit un avenir à ce canal de Bourgogne?
Il a un atout indéniable, c'est le charme incomparable qu'il a. C'est Pierre Alain en parlait, les couleurs, enfin, c'est un charme incomparable. C'est vrai que l'air du temps n'est pas en faveur la disparition des services publics. Alain Denuy parlait de la fermeture de l'aéroport. Alors, c'est des avions, mais c'est aussi des emplois sur place, des emplois, de la consommation, ainsi de suite. Enfin, nos campagnes perdent leurs trains, perdent leurs écoles, on perd des classes, enfin, plein de choses comme ça. Ça va pas dans le sens d'un retour de la vie sur le canal. Le canal est dans la plupart de son tracé rural, d'accord. On relie des centres urbains, mais c'est rural. La problématique est là. Et sa seule chance, c'est son charme incroyable.
Dominique Besset, c'est ce que vous allez vanter en tant qu'ambassadeur, greeter, comme on dit, du canal. Vous allez vanter les charmes de ce canal aux touristes, peut-être français?
Bien sûr, mais malgré, avec les difficultés présentes actuelles, il a des chances et il faut se mobiliser pour qu'effectivement ces charmes-là puissent jouer encore et en faire bénéficier le maximum de monde, quoi.
Et qu'est-ce qu'on fait des écluses qui ne sont plus habitées? Il y en a un certain nombre. Eh bien, Pierre-Étienne Guillemin suggère qu'on les mette à disposition des migrants et des demandeurs d'asile. Alors voilà, on peut peut-être conclure cette émission comme ça. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous ce soir, Dominique Besset et vous, Laurent Richoux, président de l'association Autour du Canal et co-auteur du livre blanc des canaux de Bourgogne, dont nous mettons le lien sur la page de Sur la route, sur le site de France Culture. Vous pouvez télécharger cette émission sur le site de France Culture et nous suivre sur Twitter et Instagram pour les photos. Il faut chercher Julie Gacon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisy au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu au Cerf pour son accueil. À la technique, c'était Orso Robaglia. La semaine prochaine, nous serons sur la route de la scène électro à Reims. C'est bien dans la cité des Sacres des Rois de France que ça se passe, avec des groupes champenois aujourd'hui connus dans le monde entier. Nous serons avec Avox et Elisabeth Like a Dream, entre autres. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un Monde.